matin, nous entendrons l'intervention qu'Annie Bellis, fondateur et directeur artistique de l'ensemble Kyrillos, a prononcé dans le cadre des leçons magistrales. Directeur de recherche au CNRS, rattaché à l'Institut de recherche et d'histoire des textes, Annie Bellis est une éminente spécialiste de la musique de l'Antiquité. Elle est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages et de plus d'une centaine d'articles parus dans des revues scientifiques de haut niveau, tant en France qu'à l'étranger. Elle y a abordé des questions de théorie et de notation musicale, mais également la facture des instruments ou encore la carrière des musiciens et l'esthétique des anciens. Les universités les plus prestigieuses l'invitent régulièrement à diriger des séminaires, à animer des masterclass et à prononcer des conférences. C'est d'ailleurs à partir de ses travaux scientifiques sur les instruments antiques que les luthiers Jean-Claude Condy et Carlos González réalisent les répliques de lyre, de sitar, de percussion et d'instruments à vent. Elle est l'auteur des transcriptions de toutes les partitions qui sont interprétées par l'ensemble Kyrillos. Annie Bellis a entre autres publié « Les musiciens dans l'Antiquité » chez Hachette. Voici comment elle présente la leçon magistrale que nous allons entendre. Je cite. « La musique grecque a péri tout entière et ses chimères de vouloir la reconstituer », écrivait un érudit à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, nous avons une bonne connaissance du système musical grec et romain grâce à des textes, à des représentations figurées, à des vestiges archéologiques qui vont de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ au Ve siècle après Jésus-Christ. La redécouverte de ce patrimoine musical s'est faite pas à pas et progresse encore grâce à l'exhumation de nouvelles partitions. L'objectif sera d'en montrer la richesse, la variété et la beauté. La musique antique existe comme littérature, comme science, comme art. Mais comment l'a-t-on redécouverte ? Mon propos est de répondre aujourd'hui à cette question. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, la perte d'une grande partie du patrimoine musical de l'Antiquité faisait le désespoir des érudits. Pas de partitions, presque pas ou trop peu de traités de théoriciens, peu de vestiges d'instruments. Presque tout semblait avoir disparu. En 1875, il n'y a pas si longtemps, le grand musicologue belge François-Auguste Gewaert, après avoir consacré 10 ans de sa vie à rédiger son monumental ouvrage, il y a plus de 1000 pages, « Histoire et théorie de la musique de l'Antiquité », achevait sa préface sur un amer constat. Je le cite. « Supposons que l'invasion des barbares du Ve siècle n'eût épargné aucun édifice antérieur au siècle d'Auguste, et que pour étudier l'architecture grecque, nous n'eussions que Vitruve d'une part, et de l'autre, quelques constructions médiocres du IIe et du IIIe siècle. Tel est, à peu de choses près, le problème désespérant qui s'offre à l'historien de la musique gréco-romaine. » Et il continuait. « Il importe donc de ne pas se faire illusion sur les résultats possibles de notre genre d'étude. Ce que nous pouvons savoir est bien peu de choses en comparaison de ce que nous sommes condamnés à ignorer toujours. » Un quart de siècle plus tard, un autre érudit, Théodore Reinach, tenait des propos très semblables. Je cite aussi. « Si la musique est de tous les arts, celui que les Grecs ont cultivé avec le plus d'ardeur, c'est aussi celui dont il nous est resté le moins de vestiges. Il semble que la musique des Grecs ait péri tout entière et que ce soit chimère d'espérer jamais la ressaisir. » Heureusement, je n'ai pas désespéré, moi. Les métaphores témoignent du pessimisme, du découragement et de la frustration des érudits, un état d'esprit plutôt rare chez eux. Au milieu du XVIIe siècle, déjà Meibom parlait d'une musique restée plongée dans les ténèbres de la tombe, et d'autres la voyaient assoupie d'un sommeil 20 fois séculaire. Les plus pessimistes considéraient le désastre
comme définitif et complet pour décrire les trop minces résultats d'efforts ininterrompus et infructueux à la recherche de ce que l'on tenait à juste titre pour les témoins insaisissables de la musique antique des partitions. En effet, est-ce connaître une musique que de ne la saisir qu'abstraitement sans en avoir la moindre note? Si la musique antique revit aujourd'hui, ce n'est qu'au terme d'un long processus de 4 siècles, jalonné de recherches obstinées et de trouvailles provoquées ou inespérées. Ce sont ces étapes que j'essaierai de retracer. Dès la fin du 15e siècle, les érudits s'efforcèrent de retrouver des manuscrits d'ouvrages grecs et latins pour les identifier, les recopier, les traduire et les éditer. Ce qu'ils accomplissaient pour les dialogues de Platon, les traités d'Aristote, les tragédies d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide, pour les comédies d'Aristophane, ils l'ont accompli aussi à la recherche de la littérature musicale et musicographique grecque et latine. Certains Italiens lisaient les manuscrits de musicographes en rêvant de faire revivre de leur mieux, c'est-à-dire presque pas, la musique de l'Antiquité. Je n'en citerai qu'un seul exemple, celui de Vittorino da Feltre, qui à Mantoue, je cite, « voulant imiter comme en toute chose les maîtres grecs, avait employé des professeurs de chant et de lyre. » Difficile entreprise. Il possédait bien des manuscrits de 3 traités antiques, un sur la musique d'Aristide Quintilien, nous savons maintenant que c'est un auteur du 3e siècle, l'introduction musicale de Bacchus en grec, et l'institution musicale de Boès en latin. Mais en réalité, la structure du système musical antique, très différente de la nôtre, lui échappait parce qu'il n'y avait pas de traduction adéquate. En ce qui concerne les textes musicographiques, le travail d'édition n'a sérieusement commencé qu'à la fin du XVIe siècle, à Venise d'abord, pour gagner au siècle suivant l'Italie tout entière, puis l'Allemagne du Nord, l'Angleterre et la France. Dans cette littérature ainsi exhumée, les érudits découvrirent avec stupeur une terra incognita pluriforme et d'une incroyable complexité. Musicographique, oui, elle faisait aussi une place considérable à la réflexion philosophique comme aux mathématiques et à l'astronomie. Dans ces textes, souvent fautifs, parfois incomplets, dont on ne connaissait pas toujours l'auteur et presque jamais la date, je veux dire la date à 2, 3, 5 siècles près, tout restait à comprendre, à expliquer, en particulier les concepts, les structures, mais surtout la terminologie qui était la clé de voûte du système musical antique, l'un cachant l'autre, et le tout dans un grec trop difficile ou trop altéré par les copistes pour des compétences assez limitées de beaucoup de ses premiers lecteurs. Alors, faute de comprendre et d'éditer en grec, le XVIe siècle a traduit en latin. En 1562, Antonio Gogava, dit Gogavinus, fut le tout premier à livrer au public un ensemble de traités grecs. Médiocre helléniste, il avouait dans sa préface n'avoir pu surmonter les nombreuses obscurités de ces traités si difficiles, et il renonça donc à en présenter une édition grecque. Il se contenta d'une traduction latine, affreusement médiocre, qui resta le seul accès à la musique antique pendant plusieurs dizaines d'années. Juste un siècle plus tard, Meibom, nous en reparlerons, l'a décrit, avec son langage très, très véhément, comme un individu barbare et ignorant, dépourvu de toute compétence musicale, teinté d'une minuscule connaissance de la langue grecque. Mesdames et messieurs, sévère, mais exact. Gogavinus publia donc à Venise un petit fascicule de 165 pages, contenant 2 traités très importants. Les éléments harmoniques d'Aristoxène de Tarente, disciple d'Aristote, et les harmoniques du grand mathématicien Claude Ptolémée, dont vous connaissez le nom, ainsi que quelques autres fragments moins importants. Ces textes, écrits Gogava, provenaient d'un certain manuscrit, lequel n'a pu jamais ni être retrouvé, ni même identifié avec certitude. Donc, non seulement la littérature musicale grecque la musique grecque était perdue, mais en plus, on continuait à perdre ce qu'on avait retrouvé. Il devait s'écouler encore une soixantaine d'années avant qu'un autre pas décisif soit franchi par le philologue Johan van Meurs, un Hollandais. Il fit paraître en 1616 à Leyde, chez Elsevier, un petit in quarto qui est la toute première édition critique et annotée de trois traités grecs, Hactenus non editi, jusque-là inédit. Aristoxène, Nicomaque de Gerasa, un néo-pythagoricien du IIe siècle, et puis un Alipius dont nous reparlerons. Édition qu'il avait établie à partir de deux manuscrits. C'était la première édition de l'introduction musicale d'Alipius, petit fascicule anodin, qui aurait pu être capital, en fait, puisqu'il comportait des tables de signes de la notation, des deux notations en usage dans l'Antiquité, vocale et instrumentale, susceptibles de fournir un jour la clé de lecture d'éventuelles partitions antiques. Alors ce Gogava a édité, si l'on peut dire, le traité d'Alipius sans les signes de notation. Et Gogava savait de la musique, mais ne savait pas le grec. Mercius savait le grec, mais pas la musique. Enfin, avec le traité d'Alipius, on détenait la preuve que les Grecs avaient su écrire les partitions, ce qu'on n'avait pas cru pendant très longtemps, puisqu'on ne trouvait pas de partition ni de notation. Alors on attend encore 50 ans, sans progresser davantage. Et enfin Malherbe Bevin, nous sommes en 1652, en la personne d'un jeune homme, génial et extravagant, un puits de science, le Danois Marc Meibom. Il est de la famille des célèbres médecins du même nom. Lui aussi publie chez Elsevier à Amsterdam, sous le titre Antiquae Musicae Auctores Septem, Graecae et Latinae, sept auteurs de musique antique en grec et en latin, au terme d'une tâche qu'il qualifie lui-même de très difficile et désespérée. Vous le voyez, ce sont toujours les mêmes termes qui reviennent. Helléniste remarquable, bon paléographe, excellent musicien, Meibom fait là un coup de maître et de manière exemplaire. En relations épistolaires avec la fine fleur des hellénistes de toute l'Europe, il sollicita et obtint naturellement leur aide. Ils collationnèrent pour lui des manuscrits musicographiques conservés dans les plus prestigieuses bibliothèques publiques et privées. Sommez lit les manuscrits à Paris. Et surtout quatre Anglais collaborent et accomplissent le même travail pour lui. Langbaine, Childhead, Pembroke, à la bibliothèque Bodleian d'Oxford. Mais comme Meibom tient les catholiques romains en abomination, il refuse de s'adresser aux Italiens. Cette rare et belle édition, la première véritablement digne de ce nom, a été trop souvent dédaignée, sans doute, si je puis me permettre, par des gens qui ne l'avaient pas lu. Dans des notes innombrables, Meibom compare les leçons, il corrige, il ajoute, propose, explique, il interprète avec une ingéniosité confondante, et lorsqu'il lui faut présumer, faute de documentation ou de recoupement, il le fait avec une intuition remarquable. Certaines de ses hypothèses se sont vues confirmées par des découvertes ultérieures. En tout cas, pour la première fois, la théorie musicale antique était livrée au public dans des éditions excellentes. Le Meibom est resté la référence pendant 250 ans, jusqu'à l'édition des Musici Scriptores Graeci de l'allemand Carl von Jahn en 1894. Dans le courant du XIXe siècle, de nouveaux manuscrits de traités musicaux inconnus auparavant ou déjà publiés mais d'autres manuscrits avaient été mis au jour. Je mentionne rapidement trois traités anonymes très courts édités par le philologue et musicologue allemand Bellarmann en 1841 et des textes tardifs et fragmentaires regroupés par l'érudit Vincent dans les notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi en 1847 à Paris. Vous aurez sans doute remarqué, nous sommes passés du XVIIe au XIXe siècle en sautant allègrement le XVIIIe siècle. Et pour une bonne raison, c'est qu'il ne se signale que par les modestes communications de Burette, un médecin d'ailleurs, sur un traité musical attribué à Plutarque. Mais, puisque j'ai l'honneur d'appartenir à l'Institut de papyrologie de la Sorbonne, je tiens à mentionner ici une trouvaille très importante faite à Herculanum en 1752 dans la bibliothèque épicurienne, dite Villa des Papyrus, un papyrus grec du traité sur la musique du philosophe épicurien Philodème de Gadara, contemporain de Cicéron, qui écrit en grec. Il expose et réfute ensuite, une à une, les thèses musicales d'un stoïcien du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Diogène de Néanda. Résumons-nous. Il a fallu 3 siècles à une poignée de philologues italiens, danois, allemands et français pour parvenir à constituer un corpus, disons d'une dizaine, d'une quinzaine de traités musicographiques rendus à leurs auteurs et bien datés. D'abord, sous forme de traductions latines erronées, puis dans des éditions critiques toujours plus complètes. Aujourd'hui, nous sommes encore très loin d'avoir retrouvé tous les traités théoriciens de la musique antique. Nous connaissons encore des titres et seulement des titres, ou le nom et seulement le nom, de dizaines d'auteurs dont il ne subsiste pas un mot. Mais, estimons-nous déjà heureux de disposer d'un vaste corpus significatif qui nous livre dans sa totalité la nomenclature du système musical antique fort complexe et en dessine l'évolution depuis la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ avec les fragments de traités des premiers disciples de Pythagore, puis dans le dernier tiers du 4e siècle le traité presque complet d'Aristoxène de Tarente et divers ouvrages, deuxième, du troisième, du quatrième et jusqu'au cinquième siècle, sans oublier Boèce qui écrit en latin. Au fil des siècles, les motivations des érudits avaient changé. Le Quattrocento et les humanistes de la Renaissance cherchaient à percer les secrets des pouvoirs théurgiques que les anciens eux-mêmes prêtaient à leur musique et tâchaient d'en imposer l'esthétique aux compositeurs de leur temps, un acte militant contre la tentation polyphonique. Voyez Erasme. Quant aux philologues, leur ambition était évidemment de reconquérir et de restituer une littérature et un savoir musicographique longtemps perdu, dont ils connaissaient l'importance. Or, par un paradoxe singulier, mais qui s'explique par la difficile circulation du savoir et des livres, on a pu, à un même moment, disposer de partitions grecques sans posséder la clé de leur déchiffrement, et inversement, certains savants ont percé le mystère de la notation musicale antique sans connaître l'existence de ces mêmes partitions. La toute première, grecque, fut identifiée par un théoricien glorieux, Joseph Ozzarlino. Elle avait été découverte, alors c'est lui qui l'écrit, de nombreuses années auparavant, dans Un Antico Libro Greco, par Michele Sofiano, lequel en avait fait passer une copie à Ozzarlino. Il la publie dans les Supplementi Musicali a ses Istituzioni Armoniche, et on connaît aujourd'hui 6 manuscrits de ce document, qui n'est pas tout à fait une partition. Il se présente en 2 colonnes, colonne de gauche indiquant en grec de la main gauche et l'autre de la main droite. Dans chaque colonne sont donnés des noms de notes associés à des signes musicaux. Ozzarlino ne savait pas les déchiffrer et ne comprenait pas la nature exacte de ce document. Mais, puisqu'il y avait main gauche, main droite, dans les 2 colonnes, pour lui, la disposition du texte prouvait que les Grecs avaient pratiqué la polyphonie. Ce fut une controverse qui fit rage. En réalité, il ne s'agit pas d'une partition instrumentale, mais en fait d'une sorte de tablature, ce qui rend caduque et invalide la conclusion de Ozzarlino. Ce document a résisté à toutes les tentatives d'explication exhaustive. Il y en eut pas moins de 9 entre 1847 et 1898. Naturellement, on a su transcrire les signes musicaux, mais plusieurs autres indications que je ne tiens pas à expliquer ici restent incompréhensibles. Et comme l'a dit l'un de mes prédécesseurs, la question est provisoirement désespérée. Toujours le même mot. Le premier spécimen de musique vocale grecque fut publié une trentaine d'années plus tard par Vincenzo Galilei dans son Dialogo della musica antica e della moderna. Nous sommes en 1581. Lui, comme Zarlino, d'après une copie que lui avait fournie Bardi, qui avait découvert le manuscrit dans la bibliothèque du cardinal Angelo Ranuccio Farnese à Rome. Je cite ce qu'en dit Galilei. Ce sont 4 cantilènes antiques composées en mode lydien. Et la suscription du manuscrit les attribue à un certain Dionysios, c'est-à-dire pour nous Denis. Nous savons depuis qu'il s'agit de préludes et d'hymnes au soleil et à Némésis, non pas de Denis ou Dionysios, mais de Mésomède de Crète, un compositeur ami de l'empereur Adrien, qui a régné entre 117 et 138 de notre ère, très cultivé, très épris de musique. À la fin du XVIe siècle, on se trouvait en possession de 2 séries de partitions antiques sans encore disposer d'aucune clé pour les décrypter. D'ailleurs, il arrivait que les copistes médiévaux qui ne comprenaient rien à ces espèces de hiéroglyphes, sont des signes dérivés des lettres de l'alphabet, qui pivotent, qui sont tronqués, auxquels on rajoute des choses. Donc il arrivait que ces copistes se découragent et ils renoncent à les écrire. On voit dans certains manuscrits de musicographes que les diagrammes de signes portent bien le nom des notes, mais que les signes ne sont pas donnés, sont par copiés. Il a fallu encore attendre 42 ans, vous voyez que c'est l'histoire d'une longue patience, avant que le traité de Bacchus l'Ancien ne soit édité par le père Marin Mersenne, et 69 ans avant que Marc Meibom ne présente une édition correcte des fameuses tables d'Alypius, c'est la pierre de Rosette de la musique antique. Mais sans que ni l'un ni l'autre ne puisse tenter la moindre transcription de partitions dont il ne connaissait pas l'existence. Le fait est d'autant plus sidérant que Marc Meibom, vous savez le jeune homme extravagant dont je parlais tout à l'heure, s'était donné beaucoup de mal pour écrire lui-même plusieurs partitions en notations antiques dans la double intention de prouver à ses lecteurs sa maîtrise du système de notation musicale antique et de les inciter à s'y exercer eux-mêmes. Sa partition la plus longue est un beau Te Deum par lequel il conclut sa préface, voulant rendre grâce à Dieu, écrit-il en latin, de lui avoir permis de mener à bien son entreprise alors qu'il désespérait d'y parvenir. La partition comporte des portées lignées à notes carrées, mais surtout les notations en grec dans les 2 systèmes vocal et instrumental en usage dans l'Antiquité. Alors évidemment, j'ai épluché ces notations, et je peux vous dire qu'il n'y a pas une seule, enfin il y a une toute petite faute. Il a interverti 2 signes, un pi au lieu d'un eta. C'est vraiment très peu de choses. Alors on n'avait pas de vraie partition. Alors l'inévitable s'est produit, c'est que faute d'en avoir de vraie, ou bien on en a fait à la manière de l'antique, ou bien alors on en a contrefait. C'est une tentation à laquelle ont cédé beaucoup de lettrés, ou plusieurs lettrés. Créer de toutes pièces de fausses partitions en notation grecque, en les faisant passer pour antiques, ou composer des mélodies, comme on disait, mesurées à l'antique, en notation alypienne. Ce ne sont pas des contrefaçons, d'ailleurs, puisque les auteurs ne cherchent pas ouvertement à les faire passer pour des musiques venues de l'Antiquité et en préviennent leurs lecteurs. L'un des tout premiers spécimens est assurément la courte mélodie donnée sur des paroles françaises par Pontus de Thiars en 1555 dans son remarquable dialogue intitulé « Le solitaire second ». À son interlocutrice, le savant solitaire explique où il a trouvé la partition. Je le cite, sans prononcer en ancien français. « Je sais bien que les anciens écrivaient sur les vers certains caractères accommodés à chacune des syllabes, selon lesquels la voix se devait hausser ou baisser en tout le système, tant diatoniquement, chromatiquement qu'énharmoniquement. J'en ai vu quelques exemples. Et s'il vous plaît, les formerai sur ce papier, tel que je les ai retirés d'un vieil livre écrit en main. » Cette phrase est terrifiante. Un vieux livre écrit à la main, c'est donc un manuscrit grec. Mais lequel ? Nous ne le savons pas. Et il ne le dit pas. Et le texte que donne Pontus, hélas, n'est pas en grec, mais en français. Plus d'une paix rebelle, etc. Elle est terrifiante aussi parce que Pontus dit avoir vu plusieurs exemples de partitions grecques. Et hélas, il ne dit pas lesquels. Le ou les manuscrits vus ou recopiés par Pontus ne se sont en tout cas jamais retrouvés. Et aucun manuscrit correspondant à cette description ne figure dans l'inventaire de sa bibliothèque. S'ils ont jamais existé, en tout cas, ils comportaient plusieurs mélodies accompagnées d'une notation musicale avec leurs signes. D'autres manuscrits musicaux anciens ont disparu. Déjà, on en a vu un exemple, mais aussi les 20 odes d'Horace qui avaient été mises en musique par une certaine Gemina, ou encore telle partition qui figurait au revers de la tablature dont je vous parlais et que Doni avait eu sous les yeux, ainsi qu'il l'écrivit à Mersenne le 15 octobre 1633. Ce qui est sûr, c'est que on ne connaît pas de manuscrit de cette tablature qui s'appelle l'Ormacia, avec au revers une autre partition. Je passe sur les tentatives de certains musiciens pour appliquer à la poésie latine et française les principes, encore conjecturaux à l'époque, qui avaient régi la composition mélodique des anciens, afin, selon la belle formule de Mersenne, d'expérimenter la force de la musique ancienne, ou du moins, que nous en considérions et l'art et la beauté. Deux poètes, un grec, un latin, leur servirent tout particulièrement de bancs d'essai, Pindare et Horace. Je m'arrêterai en revanche sur une partition publiée par Athanase Kircher, qui revient à la mode, j'ai entendu ça. Le jésuite est auteur de la Musurgia Universalis en 1650. À la différence des compositeurs qui prévenaient qu'ils écrivaient à l'antique, Kircher, lui, prétendit avoir découvert deux partitions antiques dans les manuscrits grecs de la bibliothèque du couvent San Salvatore près de Messine. La première est un hymne à la Vierge de Grégoire de Nazianze, auteur du IVe siècle, et l'autre n'est rien moins que le début de la première ode pythique de Pindare. Il faut lire Kircher, qui se répand en détail sur les circonstances prétendues de sa prétendue trouvaille. L'hymne figurait, écrit-il, dans un codex, écrit aux alentours de 700, qui comportait, tant qu'à faire, allons-y, de nombreux hymnes accompagnés de signes musicaux. Dommage qu'il ne les ait pas recopiés tous, s'il les avait vus. Cet hymne est écrit dans une notation qu'il qualifie d'intermédiaire, une portée à 8 lignes, notation évidemment inventée de toutes pièces et parfaitement inconnue de l'Antiquité, qui n'utilise pas la notation spatiale. Kircher se moque du monde et montre qu'il se moque du monde. Et il a signé, de façon très drôle d'ailleurs, sa contrefaçon. Si les paroles sont bien un hymne à la Vierge Parthénos, si vous la chantez, vous voyez bien que vous pouvez tout le monde reprendre un canon, un joyeux canon. C'est un air à boire. Cette partition est passée à peu près inaperçue. En revanche, la deuxième, le Pindare, a fait sensation et a déclenché une polémique de 2 siècles et demi, pendant lesquels on a débattu pour ou contre son authenticité. Très vite interrogé par toute l'Europe, certains même menant une enquête sur place, les bons moines se sont défendus d'avoir jamais possédé de tels manuscrits. C'est en vain que 2 ans après la publication de Kircher, Maybaum a dénoncé en termes virulents l'imposture. Alors là, je cite encore, je veux dire que de nos jours, et heureusement, les érudits ne se traitent plus de cette façon. L'imposture de ce misérable, ce jésuite négligent, ignorant, auteur d'inepties sans nombre, qui, depuis Rome, répand la barbarie à travers toute l'Europe, et qui donne pour sienne, ça c'est la qualification d'imposture, les découvertes de Glaréane, ou encore celle de Mersenne. Naturellement, il est établi que le manuscrit de Pindare annoté en musique n'a jamais existé, et on sait que la partition est un faux, pur et simple. Enfin, c'est drôle. D'ailleurs, là aussi, Kircher s'est amusé avec les érudits et a défié leur intelligence et leur connaissance. Le chorus instrumentalis est écrit en notation vocale et la mélodie vocale est écrite en notation instrumentale. Donc, jusque dans le dernier quart du XIXe siècle, on ne connaissait le répertoire musical antique qu'à travers le prisme déformant d'un maigre corpus de 8 pièces musicales, dont la moitié était des faux, dont 2 de Kircher. N'étaient en fait authentiques que les préludes et les hymnes de Mésomède, qui ne suscitaient aucun intérêt, et la tablature. Et d'ailleurs, pour les préludes et les hymnes, comme ils avaient été transmis par des manuscrits médiévaux byzantins, il était toujours possible que les partitions n'aient été que médiévales ou byzantines. C'est alors que le miracle se produit. Apparaissent coup sur coup les partitions dont l'authenticité ne peut être remise en doute, puisqu'aucune tradition manuscrite ou aucun faussaire n'était susceptible de les avoir altérées ou inventées. On attendait, on espérait découvrir de nouveaux manuscrits dans les bibliothèques. On a trouvé des inscriptions, on a trouvé des papyrus, mis au jour pour les unes en Turquie et en Grèce, et pour les autres en Égypte. En 1883, un archéologue découvre près de Trale une magnifique petite stèle funéraire de marbre blanc, aussitôt publiée. C'est un très bouleversant épitaphe funéraire, un poème et une très belle et très pure mélodie, composée par un musicien pour lui-même, et l'éditeur ne réussit pas à comprendre ce qu'il a sous les yeux. Il écrit « Je ne comprends pas le sens des petites lettres qui surmontent le texte ». Eh bien, les petites lettres, c'est non seulement les signes mélodiques, mais c'est aussi la notation rythmique que l'on découvrait pour la première fois. Et puis, 9 ans plus tard, c'est la sensation. L'école d'Athènes fouille les ruines du trésor des Athéniens à Delphes, et ce qu'on appelle entre nous la grande fouille découvre par fragments successifs 2 grandes inscriptions musicales, 2 hymnes à Apollon, que j'ai publiées depuis et datées toutes les 2 de 128 avant Jésus-Christ, et auxquelles je pense que j'ai rendu le nom de leurs auteurs. Lisons ce qui est écrit le 5 juin 1892 dans le journal de la Grande Fouille. Ruine du trésor des Athéniens. 2 fragments d'inscriptions métriques. Certaines lettres sont surmontées de signes énigmatiques. C'est la notation musicale. Théodore Reynac les publie, et le 12 avril 1894, il donne une conférence aux Beaux-Arts, une conférence mémorable, sur ce que, dans son enthousiasme, il nomme la bibliothèque musicale de Delphes. Et il fait entendre ce qu'il croit être un seul hymne d'Apollon, en fait il y en a 2, mais très loin de la stricte transcription. Il ne la fait pas chanter en grec, mais sur un texte français, pas mal d'ailleurs, de Jean Dijkstal, et non pas par un homme. On sait maintenant qu'il y avait 64 chanteurs, des hommes tous, mais par une soprano, Madame Remacle, une certaine célébrité. Et il y a 2 instruments. Nous avons remplacé la cithare par la harpe. Quant à la flûte antique, elle est représentée ici par l'harmonium, faute de clarinette. L'accompagnement, qui est sublime, est de Gabriel Fauré, et c'est lui qui tenait l'harmonium. Voilà la grande monodie grecque présentée selon le goût du jour et avec les moyens dont on disposait. mais la partition dont Fauré a donné plusieurs transcriptions, plusieurs harmonisations, est sublime. Elle est très très belle. C'est du pur Fauré. C'est beau. C'est magnifique. Au début du XXe siècle, c'est d'Égypte, des sables d'Égypte, comme disait Reinach, que vinrent d'autres découvertes. Les papyrus musicaux, qui constituent aujourd'hui l'essentiel du répertoire antique. Et toutes les mélodies sont écrites en grec, aucune en latin. Dès 1892, Wessely avait identifié à Vienne, dans la collection de l'archiduc Rainer, un fragment de l'Oreste d'Euripide, ce qui avait fait grand bruit. Et nous connaissons actuellement 60 ou 70 partitions, plus ou moins fragmentaires, mais quelques-unes presque complètes, dont les hymnes de Delphes, 25 minutes de musique. Alors il faut bien parler des instruments de musique. Je ne pourrais en dire que peu de choses, puisque dans le cadre de ces leçons magistrales retransmises sur France Culture, il nous est difficile de travailler sur des images. Il y aurait pourtant beaucoup à en dire et beaucoup à en voir. Les textes grecs, de toute catégorie, technique ou pas, fourmillent de termes désignant environ 80 instruments de musique. C'est tout un instrumentarium. L'holos, une sorte de hautbois double, abondamment décrit par les textes, ainsi que leur fabrication et la fabrication des anges. Et la plupart des instruments à cordes, comme la lyre ou la cithare, sont maintenant assez bien connus. Mais d'autres, dont je vais vous citer les noms, rien que pour le plaisir, sambouquet, nablas, épigonéion, pandoura, pectis, magadis, ne restent à peu près que des mots. Et d'ailleurs, ils étaient déjà des énigmes pour les érudits de l'époque impériale. Je me contenterai de dire que nos connaissances actuelles sont satisfaisantes grâce au recoupement que l'on peut effectuer entre les sources écrites, les innombrables représentations figurées sur les vases, les mosaïques, les reliefs et les vestiges d'instruments ou les instruments trouvés dans des tombes ou à proximité de temples où ils avaient été exposés et déposés en ex voto. Il s'agit surtout d'instruments avant, mais il y a aussi des lyres, des fragments de lyres, des carapaces de lyres et un petit luth d'époque romaine dont j'ai fait faire une reconstitution et dont je joue moi-même. Il y a énormément de vestiges d'instruments, ceci n'est pas connu. Personnellement, j'ai dû étudier à peu près 600 vestiges d'instruments de musique dans différents musées. Durant les siècles passés, la musique antique a suscité une admiration longtemps abstraite, qui ne dérivait pas de la lecture des partitions, mais des témoignages indirects d'auteurs grecs et latins. Mais, paradoxalement, on raillait les tentatives pour la faire entendre, cette musique. En 1652, l'extravagant jeune homme, Mébom, déclencha la risée générale lorsqu'il a entonné un chant grec devant la cour de Christine de Suède, chez qui il travaillait, et la séance s'est terminée en pugilat, à coups de poing, entre Mébom et le médecin de la reine, un Français. De même, quand, en 1720, devant l'Académie des inscriptions et belles-lettres à Paris, Burette a fait jouer les hymnes de Mésomède et l'ode qu'il croyait encore de Pindare, qui font, d'ailleurs ces partitions font les planches musiques de l'Antiquité, de l'Encyclopédie. Il s'est attiré les sarcasmes de Jean-Jacques Rousseau. Vous me direz, c'était son habitude. Alors citons Jean-Jacques Rousseau. Burette ayant traduit, comme il le peut, en note de notre musique certains morceaux de musique grecque, eut la simplicité de faire exécuter ces morceaux à l'Académie des Belles-Lettres, et les académiciens eurent la patience de les écouter. Eh bien, si Jean-Jacques Rousseau, s'il avait été académicien, avait écouté ces morceaux, il aurait eu la patience de les écouter, parce qu'ils sont très beaux. Heureusement, ces temps sont presque entièrement révolus. Aujourd'hui, nos connaissances sur la musique antique feraient rêver à Mébom. Nous disposons d'une bonne vingtaine de traités complets, grecs et latins, dont les manuscrits ont été répertoriés, comparés, amendés, traduits, commentés, pas tous malheureusement, par plusieurs générations d'éditeurs. Mmh.
Éloge du savoir ce matin, la cité de la musique avec aujourd'hui Annie Bélis. Réalisation Thomas Duterre, présentation Christine Goémé.